imaginez qu'on vous diagnostique un cancer, mais qu'on oublie de vous en informer. C'est ce qui est arrivé à Lévis. Il y a un résident de Lévis qui poursuit son médecin, qui poursuit l'hôpital, la clinique pour plus d'un million parce qu'ils lui ont découvert deux lésions cancéreuses, mais ça a pris 19 mois avant qu'ils informent le patient qui avait un cancer. Alors là, je me dis, comment ça se fait? Comment ça peut arriver? On va aller rejoindre Alain Vadeboncœur, le médecin urgentologue, chef du service de médecine d'urgence à l'Institut de cardio de Montréal. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour, Bernard.
Comment ça peut arriver?
Oui, bien, ça peut arriver parce que, en fait, c'est des systèmes complexes. Hein? Quand on demande un examen, par exemple, ben, il y a des gens qui émettent un rapport. Ce rapport-là chemine. Il doit être vu. Évidemment, il y a une obligation pour le médecin de voir le rapport et d'assumer le suivi. Mm-hmm. Mais il doit être revu par le médecin. Donc, il peut arriver plein de choses dans cette chaîne-là, malheureusement, qui est jamais absolument parfaite. Là. Le rapport, est-ce qu'il a été émis, est-ce qu'il a été vu? On ne le sait pas encore. En fait, on a peu d'informations sur ce cas-là. Donc, à quel moment la chaîne s'est brisée, on ne le sait pas. Mais c'est des choses qui peuvent arriver parce que ce sont des êtres humains, en fait, qui font ces choses-là. Et malheureusement, je connais aucun système qui est parfait pour éviter ce genre de drame là, qui amène ben, évidemment beaucoup de souffrance et beaucoup de colère souvent. Dans
oui, puis même
dans, que, chez les gens.
Puis dans ce cas-ci, on parle d'un cancer du côlon. Évidemment, le monsieur dit d'abord, ça me cause énormément d'anxiété, évidemment, parce que s'il n'y avait pas eu cette faute-là, ben j'aurais été pris beaucoup plus rapidement, les traitements auraient commencé plus tôt, ça aurait été moins invasif, je serais probablement aujourd'hui en rémission, peut-être en rémission complète. Donc, il y a une cause, le bonhomme, là. Ça, c'est clair, là.
Ben, je veux dire, c'est clair qu'un test, quand il est fait, c'est pour aller chercher de l'information. Dans ce cas-là, c'était pour justement pour évaluer s'il y avait des possibilités de cancer. Évidemment, un délai de 19 mois, si c'est arrivé comme ça, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Ces rapports-là sont fournis rapidement et donc la communication aurait dû avoir lieu beaucoup plus rapidement que ça, sans présumer de ce qui s'est passé. Donc, c'est sûr que les gens et les patients, puis je les comprends, ça va amener beaucoup d'inquiétude parce qu'on se demande d'abord pourquoi c'est arrivé. Ça amène la colère aussi. Ça amène aussi, ben, par rapport à sa propre maladie, on sait qu'un cancer, ça évolue. Et 19 mois, c'est quand même assez long. Donc, je comprends bien les sentiments des gens qui sont pris avec des situations comme ça. Là, c'est toujours assez terrible et ça donne pas nécessairement confiance, si on veut, dans la suite des choses.
Toi qui travailles dans le système de santé, là, puis on sait qu'au fil du temps, les structures ont beaucoup grossi. Hein, les ouais. C3S, puis après ça, c'est devenu des CIS, des CIUS. Le fait que la structure bureaucratique grossisse sans cesse, est-ce que ça augmente les chances d'erreurs comme celle-là, qu'à un moment donné, un examen se perde, qu'un rapport ne se rende pas jusqu'au médecin ou jusqu'au patient? Est-ce qu'on doit craindre ça?
Ben moi, honnêtement, j'aurais tendance à penser plutôt le contraire. J'ai pas de chiffres là sur est-ce qu'il y a plus ou moins de ce type de mission-là avant. Mais il faut comprendre que maintenant, il y a quand même beaucoup de gains qui ont été faits, par exemple sur l'informatisation. Et donc, la chaîne de transfert, si on veut, des rapports est assez différente, est un peu plus directe, si on veut. L'information aussi, elle reste dans des systèmes qu'on peut réinterroger. Donc, ça a beaucoup changé. Tu sais, quand j'ai commencé à pratiquer, mettons, il y a près de 30 ans, ben, tu sais, je me rappelle que je recevais dans ma case des centaines de rapports papier. Et que la seule façon de retourner dans les dossiers, c'est de faire sortir les dossiers aux archives. Donc, c'était beaucoup plus complexe. Je pense qu'honnêtement, il y a moins de risques maintenant. Le seul problème, c'est que bien souvent, les systèmes d'information là, dans lesquels on travaille n'ont pas été conçus tellement pour assurer des suivis, par exemple. M'assurer que j'ai vu tous les rapports des examens que j'ai demandés, ben, ça pourrait se faire de façon informatique, mais on est encore un peu partout dans le système avec des approches papier, c'est-à-dire que j'écris sur un rapport, finalement, que je l'ai vu, que j'ai donné un suivi. Et donc, il y a encore des risques d'erreur, mais je pense que c'est mieux qu'avant, honnêtement.
Même si on entend parler beaucoup des projets informatiques qui ont avorté ou qui ont été des échecs ou des semi-échecs, tu dis quand même que malgré tout ça, l'informatisation du système de santé progresse. C'est quand même pas mal mieux qu'avant?
Ah, ben, il n'y a aucun doute. On ne travaille pas du tout dans le même univers. Moi, quand je revise maintenant mes rapports, supposons mes rapports d'examen, ben, j'ai immédiatement accès au dossier du patient. Je peux voir qui il est, est-ce qu'il y a eu un suivi, etc. Et ça me prend d'abord 10 fois moins de temps qu'avant pour faire ça. Et d'autre part, ben, c'est beaucoup plus facile d'assurer un suivi parce que l'information est immédiatement disponible. Dans la plupart des hôpitaux maintenant, puis chez nous, c'est la même chose, évidemment. Le dossier médical est entièrement informatisé. Donc, il est accessible de très, très facilement. Et ça, ça aide beaucoup les choses pour ce genre de suivi-là, qui demande quand même d'être méticuleux, d'avoir des gens là qui s'assurent que l'information est transmise au médecin, puis qu'évidemment que le médecin fasse son travail.
Parce que,
mais je pense que c'est plus facile qu'avant.
Parce que dans ce cas-ci, ce qu'on comprend, c'est que l'homme a subi une coloscopie qui a révélé 2 lésions cancéreuses, mais ce que je comprends, c'est que lui, il l'a pas su, mais le médecin non plus l'a pas su, parce que si le médecin l'avait su, il aurait contacté le patient. Donc, ça s'est perdu au début du processus. C'est ce que j'en comprends.
Ce que j'en comprends, oui, juste préciser, on parle de coloscopie virtuelle, donc d'un examen radiologique, et non pas d'une coloscopie là, faite par un gastro-entérologue. Là, dans quel cas, ça aurait probablement été différent. Et donc, c'est évidemment, quand il y a un test comme ça qui est fait, il y a un rapport qui est émis. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce rapport-là? À quel moment la chaîne de l'information s'est brisée? Ben, c'est ça qu'il va falloir que les gens déterminent en cours. En fait, il y a nécessairement quelqu'un quelque part qui est responsable du fait que l'information ne se serait pas transmise. Et c'est toujours ça qu'on fait dans des situations comme ça. On essaye de que cette chaîne-là soit la plus parfaite possible. Dans un hôpital, tu corriges des affaires quand t'en vois. Mais bon, ben, ça peut arriver qu'effectivement, il y a un rapport qui se perde et malheureusement, on parle ici de la santé des patients. Avec les conséquences qu'on sait que ça peut avoir.
Toi, tu as été témoin hein, dans des causes, incluant des causes criminelles. Mettons le cas le plus dramatique pour lequel tu as été témoin ou expert.
Ben, je veux dire, honnêtement, j'ai fait au-delà presque 150 rapports d'expertise médico-légale. Donc, j'ai été dans tous les types de causes. Mais on voit de tout. Je te dirais que la plupart du temps, ces causes-là, il n'y a pas un exemple qui me vient en tête facilement. Mais évidemment, j'ai fait de l'expertise surtout dans les milieux d'urgence. Et donc, évidemment, ça mène dans plusieurs cas. Il y a décès de patients. Donc, c'est souvent ça, les causes de poursuite. Un décès qui n'est pas nécessairement attendu, puis évidemment qui va bouleverser tout le monde, la famille, et qui va avoir des impacts majeurs, autant d'ailleurs sur les familles, des fois les patients s'ils sont encore en vie, mais même les médecins, hein, ça a aussi beaucoup d'impact sur les gens qui sont impliqués dans tout ça. Donc c'est jamais facile pour personne, mais évidemment d'abord pour le patient et sa famille.
Mais y a-t-il un élément commun, mettons, à travers les différents cas où tu as été témoin, là, où tu as été expert, y a-tu comme 2-3 caractéristiques qui se retrouvent dans la majorité des cas qui expliquent l'erreur ou l'omission ou la négligence?
Ben, je pense qu'il y a 2 choses qu'on peut mentionner. D'ailleurs, j'enseigne aux étudiants en médecine les erreurs médicales comme telles. Donc, souvent, il y a un problème de penser. Tu sais, la médecine, c'est pas une science exacte. Hein, c'est une science appliquée par des êtres humains. Et dans beaucoup de dossiers, d'abord, c'est de penser, d'avoir en tête finalement qu'il y a un diagnostic grave qui est possible. Et si c'est le cas, ben, il faut vraiment travailler à s'assurer que ce diagnostic-là est exclu correctement. Donc, de pas penser au diagnostic, c'est souvent l'erreur que j'ai retrouvée peut-être le plus souvent. Mais il faut comprendre aussi que dans beaucoup de dossiers que j'ai vus, il y a un aspect relationnel. Hein. Les patients sont prêts à pardonner aux médecins des erreurs, parce que tous les médecins font des erreurs de temps en temps, mais quand ça se passe mal du point de vue de la relation entre le médecin et le patient, quand il y a de la colère, quand il y a eu, si on veut, de l'animosité, qui dans beaucoup de ces dossiers-là, on retrouve ça, mais c'est beaucoup plus difficile et ça ouvre la porte à beaucoup plus de poursuites. Parce qu'il y a personne, je pense que tout le monde comprend qu'il n'y a personne qui est parfait, les médecins sont pas parfaits, mais si les médecins ont une bonne relation avec leurs patients, sont diligents, sont compréhensifs, ça se passe souvent beaucoup mieux, même quand il y a une erreur. Et ça, je l'ai constaté à de multiples reprises.
Donc, les patients vont pardonner. Dans certains cas, même s'il y a eu erreur, ils vont pardonner, alors que s'ils poursuivraient, ils pourraient peut-être aller chercher des gros montants d'argent. Mais
ben, moi, c'est ce que j'ai vu. J'en ai souvent discuté avec différents avocats également. Oui, absolument. Les gens sont pas imbéciles. Je veux dire, s'il y a une erreur de bonne foi, si on veut, si le médecin le reconnaît, s'il a gardé de bonnes relations, s'il a fait tout ce qu'il pouvait, ben effectivement, les gens sont prêts à passer l'éponge parce que ça fait partie de la vie. Mais maintenant, quand il y a eu des mauvaises relations, souvent, ça colore ces dossiers-là. Moi, je l'ai constaté souvent. Et je dis souvent aux étudiants en médecine, peu importe, soyez gentils avec vos patients parce que vous allez faire des erreurs et vous allez apprendre de ça, mais il faut quand même bien faire ça, même quand on fait des erreurs avec les familles, avec les patients.
Je vais vous demander dans un instant de m'appeler au 790-9850 ou encore par texto 98985, Drainville à commercial 985fm.ca par courriel. Est-ce que vous avez été victime d'une erreur médicale? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a été? Vous pourrez en témoigner. En terminant, à l'avis de mon cœur, quand on regarde cette histoire-là, on se dit, est-ce qu'il faut être plus actif, plus vigilant quand, par exemple, on a subi un examen, si on s'aperçoit que ça prend trop de temps? Peut-être qu'il faut relancer. Il faut des fois peut-être un petit peu bousculer la machine pour savoir où ça en est?
Bien, pas seulement ça. Maintenant, avec le carnet santé, vous avez accès, les gens ont accès à leurs résultats d'examen. Et je pense que les gens devraient, donc c'est sur le web, hein, il suffit de faire une demande à la Régie de l'assurance maladie, et on a accès à nos propres résultats d'examen après un certain délai de quelques semaines. Et donc, je pense que oui, ça fait partie de la responsabilité des patients. Mm-hmm. S'ils n'ont pas une nouvelle, ils peuvent vérifier ça, ils peuvent demander des suivis s'ils ont des doutes ou demander des opinions.
Carnet santé. Très bien, Alain Vadeboncœur, donc médecin urgentologue et chef du service de médecine d'urgence à l'Institut de cardio de Montréal. Merci beaucoup.
Grand plaisir, Bernard.
Salut.